à parler aujourd'hui devant vous de la réutilisation des eaux usées urbaines, alors que des gens meurent à quelques milliers de kilomètres, Kalachnikov contre tank. C'est un peu démago, mais personnellement j'ai un petit peu honte. En 1938, il y avait des gens qui ne voulaient pas mourir pour les Sudètes, nous ne voulons pas mourir non plus pour les Ukrainiens, ni vous, ni moi. Il est possible qu'un jour ou l'autre, nous ayons à la fois la défaite et le déshonneur. Ceci étant précisé, revenons-en à notre propos, et de manière un peu plus légère, après l'Ancien Testament, je vais vous parler finalement d'une histoire d'eau. Alors histoire d'eau, évidemment, la référence pour les jeunes étudiants, elle n'est pas évidente, mais pour les plus anciens, ça veut dire quelque chose. Une histoire d'eau, mais une histoire du petit cycle de l'eau. Petit cycle de l'eau, je vous rappelle qu'en France, 32 milliards de mètres cubes par an constituent le grand cycle de l'eau de manière générale. Sur ce grand cycle de l'eau, il y a 9% qui sont prélevés pour l'agriculture, 2 millions d'hectares irrigués. Et ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est finalement 1% des eaux traitées. Il y a 8,4 milliards de mètres cubes annuellement qui sont traités et 1% de ces 8,4 milliards qui sont réutilisés après traitement. Petite remarque, les eaux domestiques constituent à peu près, de mémoire, 17% des prélèvements sur le grand cycle de l'eau. Si vous faites le ratio, 8,4 milliards d'eau usée, traitée, c'est plus que les prélèvements à des fins domestiques. Ce qui veut dire que l'un des gisements potentiels de réutilisation des eaux traitées, c'est d'aller chercher ailleurs que les eaux traitées dans les steppes qui s'occupent exclusivement, les steppes intercommunales qui aujourd'hui constituent le service public de l'assainissement. Il faut aller chercher, en gros, vers les usages industriels. Et, miracle, c'est bien l'objet du décret du 10 mars dont nous avons pris connaissance ce matin, puisqu'il étend le phénomène de la réutilisation à ces steppes qui relèvent de la catégorie des ICPE, c'est-à-dire les rubriques 2750, 751 et 752 de la nomenclature des installations classées annexées à l'article R511-8, si mes souvenirs sont exacts, du Code de l'environnement. Alors, voilà la petite précision liminaire. Deuxième chose, il y a eu beaucoup d'argumentations qui ont été faites sur le fait que finalement, en réutilisant l'eau qui a fait l'objet d'un traitement, on aboutirait à faire des économies d'eau. Oui, oui et non. La majorité jusqu'à présent, jusqu'à hier, la majorité de la réutilisation se faisait à partir des eaux urbaines, donc des usages domestiques, du traitement des usages domestiques. Or, ces usages domestiques, il faut savoir que 2/3 de l'eau potable est puisée dans des nappes souterraines. Elle ne vient pas des milieux superficiels. Ce qui veut dire que quand vous réutilisez à des fins agricoles des eaux qui ont été traitées, cela signifie que vous utilisez pour des usages agricoles de l'eau qui vient essentiellement, majoritairement, des eaux souterraines. Alors que l'irrigation se fait essentiellement à partir de prélèvements dans les eaux superficielles. Donc il y a une substitution de ressources. Mais globalement on n'a pas d'effet d'économie d'usage de l'eau. Sachant que les steppes ont un intérêt aussi qui est celui de fournir par endroit, par moment, du soutien d'étiage. Donc, vous voyez, la chose n'est pas si évidente que ça. L'argumentaire de vente qui consiste à dire « réutilisons des eaux traitées, nous préserverons la ressource en eau » de manière générale, l'argument n'est pas évident en tant que tel. Ça permet d'avoir des solutions locales parce qu'on ne rejette pas forcément au même endroit que l'on prélève et inversement. Mais d'un point de vue global, le système est neutre. Donc cet argument-là ne me paraît pas tout à fait pertinent. Je vous rappellerai d'ailleurs que en matière de fonctionnement des STEP, vous avez un arrêté du 21 juillet 2015 qui fixe les conditions de fonctionnement, et il rappelle très clairement que la destination normale des eaux usées, c'est le déversement dans les eaux superficielles, dans les cours d'eau. Donc c'est la destination normale. Deuxième destination normale, mais vous l'avez vu, elle est minoritaire, c'est la réutilisation. Troisième temps, à titre exceptionnel, c'est l'infiltration directe dans le sol. Ceci étant dit, on se retrouve sur des enjeux qui sont des enjeux différents pour les différents acteurs. Si vous regardez du côté du monde agricole, au-delà des aspects économiques sur lesquels peut-être on reviendra tout à l'heure, je crois, il y a quand même un intérêt majeur, un intérêt pour le monde agricole, et qui est cet intérêt, ce premier intérêt que je vois, c'est un intérêt purement réglementaire. Quand vous prélevez, quand un utilisateur prélève dans la ressource, notamment dans un cours d'eau, une nappe associée à un cours d'eau, il est soumis, au titre de l'article 214.3 du Code de l'environnement, soit à déclaration, soit à autorisation au titre du Code de la nomenclature de l'article 214.1 du Code de l'environnement. Ok. Quand ce même utilisateur final achète de l'eau, se fait fournir de l'eau par un exploitant de station d'épuration, il n'est pas soumis à ces mêmes exigences. D'ailleurs, vous remarquerez que lorsque on va gratter un petit peu dans le code de l'environnement, on s'aperçoit que l'épandage d'effluents, donc les eaux usées en font partie de cette catégorie, normalement est soumis à formalité, soit déclaration, soit autorisation. C'est la rubrique 2.1.4.0 de l'article R214.1. Sauf les effluents qui viennent de stations d'épuration faisant elles-mêmes l'objet d'une autorisation au titre de la loi sur l'eau. Donc les STEP domestiques, entre guillemets, peuvent revendre ou donner leurs effluents, et ces derniers peuvent être utilisés librement sans être soumis à formalité. Dans le cadre de la loi sur l'eau, hein, je reviendrai après sur l'arrêté du 2 août 2010. Mais c'est déjà un cadre juridique qui est relativement sympathique quand vous connaissez la lourdeur des procédures, qu'elles soient de déclaration ou d'autorisation au titre de la loi sur l'eau. Le fait d'en être exempté est plutôt quelque chose de sympathique pour l'utilisateur final. D'ailleurs, l'une des questions, je vous avoue que je n'ai pas eu le temps de la creuser, cette question, c'est que je me suis posé la question de savoir si cette exemption pour les effluents venant de STEP, j'allais dire soumise à autorisation loi sur l'eau, vaudrait pour les eaux usées venant de STEP autorisées au titre de la législation ICPE. Parce que si aujourd'hui autorisation loi sur l'eau et autorisation ICPE portent le même nom, dans les dispositions de l'article R214.1, l'exemption ne vaut que pour les autorisations délivrées au titre de la loi sur l'eau, pas au titre des ICPE. Il y a une petite nuance qui peut être là aussi porteuse de sens. Deuxième enjeu pour l'utilisateur final, c'est le fait que, on l'évoquait ce matin, ce qui nous intéresse, c'est à la fois l'eau et finalement ce qu'il y a dans l'eau. Donc notamment tout ce qui est susceptible d'améliorer la valeur agronomique des sols, ou la productivité des plantations qui sont faites sur ces sols. Or, normalement, nous avons dans le Code rural, au titre de l'article L255.2, vous avez pour les produits dits fertilisants besoin d'une autorisation spécifique. Il se trouve que, là encore, les choses sont bien faites. Les effluents des installations soumises à formalité au titre de la loi sur l'eau, donc les STEP, sont exemptés de cette nécessité de détenir une autorisation. En gros, les eaux usées peuvent être considérées et utilisées comme des fertilisants sans avoir besoin de l'autorisation spéciale prévue par le Code rural. Donc c'est ce que... Il y a une réserve, évidemment, il faut qu'il y ait un plan d'épandage qui soit associé, mais ce plan d'épandage, aujourd'hui, on l'a quand on regarde le décret, enfin, l'arrêté du 2 août 2010 sur la réutilisation des eaux urbaines traitées, il y a un plan d'épandage qui correspond aux exigences du Code rural. Troisième point que je voulais évoquer avec vous, là on vient d'évoquer les intérêts pour le monde agricole, il y a un autre intérêt qui est évidemment celui des gestionnaires de STEP. Il faut se souvenir que Bernard Dobenko le disait ce matin, on est sur un monde qui est soit géré en régie, soit pour les grosses installations qui fait l'objet de délégations de services publics. Il se trouve que la consommation d'eau potable en France, eau potable distribuée au robinet, hein, celle que nous connaissons tous, elle a diminué de 13% entre 2003 et 2017. Mais qui veut dire moins de consommation d'eau potable, dit aussi moins de volume traité par les stations d'épuration. Or, c'est en partie sur les volumes traités que les délégataires font de leur économie. Et comme le service doit être géré en équilibre, moins vous avez de volume à traiter, plus vous êtes obligé d'augmenter, comme les coûts sont pour l'essentiel fixes, plus vous êtes obligé d'augmenter le coût unitaire. D'où l'intérêt, et historiquement, figurez-vous que ceux qu'on peut appeler les marchands d'eau se sont très tôt intéressés à la réutilisation des eaux urbaines traitées, parce que derrière, il y a une question de modèle économique. Comment on peut optimiser ? Nos coûts sont fixes, on est obligé de les amortir. Comment on peut réussir à mettre, en quelque sorte, de la graisse dans les rouages et à retrouver des marges bénéficiaires dans un marché où les volumes se contractent. Donc, tout le monde a intérêt à cet enjeu. Je reviens quelques instants sur la problématique du service public de l'assainissement. Je vous ferai remarquer que nous faisons comme si, jusqu'à présent, nous faisons comme si la revente des eaux usées traitées faisait partie naturellement du service public d'assainissement. C'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que si vous allez regarder l'article L2224-7 du Code général des collectivités territoriales, il définit ce qu'est un service public local d'assainissement en disant « c'est un service qui réalise toute ou partie des missions qui sont énumérées à l'article L2224-8 du même code ». Et vous pourrez aller chercher la réutilisation des eaux urbaines, des eaux usées traitées, ça n'en fait pas partie. Alors on va dire que c'est une mission annexe, parce qu'on est gentil, parce qu'on est sympathique. Mais il n'y a pas d'évidence en la matière. Donc, alors, il y a un argument quand même, si on est honnête intellectuellement, c'est pas interdit, il y a le fait qu'aujourd'hui, on a, dans l'article 2224-10, qui prévoit la délimitation des zonages d'assainissement collectif et non collectif, dans la délimitation de ces zonages, on fait bien référence au rejet ou à la réutilisation des eaux urbaines traitées, des eaux usées traitées. Donc, voilà ce premier tour d'horizon. Vous voyez, je, J'évoque des problématiques qui ont été déjà traitées ce matin, mais à chaque fois j'essaye de mettre un petit peu de droit dedans, manière d'élargir peut-être un peu le périmètre de la réflexion. Et on se retrouve maintenant à la croisée finalement de plusieurs mondes. Le monde de la protection de l'environnement, celui du service public d'assainissement, celui de l'agriculture, avec des intérêts qui sont chacun divergents. Si on regarde du point de vue de la protection de l'environnement, on s'aperçoit que la directive cadre sur l'eau, donc du 23 octobre 2000, s'intéresse à l'eau et au bon état chimique, écologique de l'eau, des masses d'eau. Mais si vous regardez, c'est un sujet que l'on a abordé ce matin, si vous regardez les critères qui sont retenus pour qualifier de bon état ou de mauvais état ou d'état moyen, sont des critères qui sont très lâches, avec des items, des exigences qu'on pourrait qualifier de minimales. Il suffit de regarder, amusez-vous à comparer finalement, par exemple, l'arrêté du 25 janvier 2010, c'est l'arrêté qui fixe les critères pour qualifier l'état écologique des cours d'eau. Vous voyez ? Dans cet arrêté, on a un certain nombre de critères en termes de concentration de certains produits qui permettent de dire si le cours d'eau est en bon ou en mauvais état. Comparez-le, cet arrêté, par exemple, avec celui du 11 janvier 2007, qui est relatif aux eaux destinées à la consommation humaine. On a un niveau d'exigence qui est un peu supérieur. Je dis un peu supérieur. Parce que même dans l'arrêté de 2007, il y a ces fameux angles morts que nous avons évoqués ce matin, c'est-à-dire des choses où il n'y a pas de critères. Ce qu'on disait tout à l'heure, les polluants émergents. Comme on ne les recherche pas, on ne les trouve pas. Et donc vous pouvez avoir une eau qui est estampillée excellente qualité parce qu'elle remplit les critères de l'arrêté ministériel, mais qui par ailleurs présente éventuellement des concentrations anormales d'autres produits qui ne sont pas, eux, normés, normalisés. Donc on a, de ce point de vue-là, une petite interrogation. Deuxième chose, si vous regardez la réglementation qui est relative aux stations d'épuration, elle a été conçue, là encore, à une époque donnée, pour draguer en quelque sorte avec des filets à grosse maille. On va chercher des polluants potentiels ou des éléments à risque, mais on va laisser d'autres interrogations relatives à la présence de certains polluants dans l'ombre. Pourquoi ? Parce que la destination normale des eaux usées, c'est d'être rejetée dans les cours d'eau et donc diluée. Et c'est le fruit d'une époque aussi où l'on pensait que les capacités d'absorption des milieux étaient non pas peut-être infinies, mais du moins très importantes. Donc même si on jette un petit peu de cochonnerie dans un cours d'eau, il y a tellement d'eau que ça ne se verra pas. C'est peut-être un peu outrancier comme propos, mais c'est exactement le même fonctionnement en matière de législation ICPE. On a toujours eu des rejets industriels. Les rejets industriels ont fixé éventuellement des valeurs limites d'émissions. Et puis on se disait, voilà, que ce soit dans l'air ou dans l'eau, il y a une telle capacité d'absorption qu'il n'y aura pas de problème lié à ces rejets. Là, on est dans la même logique. Le problème, c'est que quand on veut réutiliser à usage agricole ces eaux-là, on va toucher d'une certaine manière autre chose, c'est-à-dire le fait que ces eaux usées et ces risques reviennent à notre contact et au moins potentiellement présentent un risque pour notre sécurité, pour notre santé, à nous en tant qu'individus. D'où un rehaussement des exigences en termes de réutilisation. Donc il y a un gap réglementaire entre ce que l'on peut rejeter dans le milieu naturel pour une steppe et ce que l'on peut accepter de réutiliser dans le cadre d'un usage agricole. La difficulté, c'est que cela génère évidemment le gap entre les deux, il faut le combler. Et pour le combler, il va falloir investir. Question, qui assume le coût de cet investissement ? Logiquement, on est dans un service public à caractère industriel et commercial, c'est l'utilisateur final, donc le monde agricole, qui devrait payer. En réalité, on s'aperçoit que, pour des raisons sur lesquelles on pourrait s'interroger, on va avoir des financements publics. Alors on peut le concevoir dans un temps d'expérimentation, de recherche et de développement, mais la pérennité du modèle, normalement, ne devrait pas être celle du financement public. Donc, on a, à ce titre-là, besoin aujourd'hui d'avoir quelques clarifications sur l'avenir et l'encadrement juridique de ce modèle économique qui est encore émergent parce que, encore une fois, les quantités qui sont traitées sont tout à fait anecdotiques. Ça peut paraître beaucoup, hein, 8,4 millions mètres cubes d'eau, c'est beaucoup, mais à l'échelle des territoires, à l'échelle de ce qui est prélevé, de ce qui est traité, c'est anecdotique. Donc, voilà quelques interrogations, quelques rappels maintenant, je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Bernardo Benko ce matin. On a aujourd'hui un règlement communautaire, celui du 25 mai 2020, qui reprend de manière assez remarquable la législation, enfin la réglementation française telle qu'elle est issue, de l'arrêté du 2 août 2010. 4 points dans ce règlement. Le premier point, c'est que le règlement affirme de manière très claire que la possibilité de réutiliser les eaux traitées, c'est la règle. Et que si un État veut s'y opposer, il doit prendre une décision particulière, motivée sur ce point. Donc vous voyez, c'est déjà l'affirmation qu'il y a cette logique, on doit pouvoir retraiter, réutiliser. Un État membre de l'Union ne peut pas s'opposer par principe à la réutilisation des eaux usées. Deuxième point, sachant que, oui, c'est pas tout à fait anecdotique, c'était une dans la directive sur les eaux résiduaires urbaines du 21 mai 1991, il y avait une possibilité de réutilisation. Les États membres pouvaient réutiliser. Aujourd'hui, la réutilisation, c'est la règle. On ne peut s'y opposer, un État ne peut s'y opposer que par décision motivée. Deuxième temps, c'est la fixation de normes minimales de qualité des eaux. Que l'on souhaite réutiliser. Mais là encore, le socle qui est retenu par le règlement, il est très limité. Et il faut aller regarder dans un deuxième temps. Le règlement permet, lorsqu'un État autorise la réutilisation des eaux traitées, il permet, au-delà des exigences minimales, d'aller fixer des exigences supplémentaires pour certains types de produits. Et le règlement fixe un certain nombre de catégories, les produits phytosanitaires, les médicaments, les produits de la dégradation de médicaments, etc. Troisième élément, c'est la mise en place d'un plan de gestion des risques partagé entre l'exploitant de la station d'épuration, celui qui fournit l'eau usée, qui la traite, et celui, l'utilisateur final, qui va utiliser donc cette eau traitée. Et on transfère là aussi une question de partage des responsabilités, on l'évoquait tout à l'heure. C'est au moment du plan de gestion que l'on va aussi déterminer qui est responsable de quoi, en termes notamment de contrôle. Quatrième point, dans ce règlement, me semble-t-il, le plus remarquable, c'est la mise en place d'un régime d'autorisation, d'un permis, dit le règlement, délivré conjointement à l'exploitant, au fournisseur, et à l'utilisateur ou aux utilisateurs, avec un contrôle de l'autorité administrative. Alors ça va nous faire du bien, ça va nous faire un bien fou, même si ça n'interviendra que finalement en 2023, du moins que le règlement ne rentrera en application qu'en 2023. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez l'arrêté du 2 août 2010, il prévoit un mécanisme d'autorisation spécifique. Lorsque vous voulez réutiliser des eaux usées traitées, il faut une autorisation. Cette autorisation, ce mécanisme d'autorisation, il est prévu par l'arrêté de 2010 lui-même. Mais moi qui ai vaguement fait un peu de droit administratif il y a très longtemps, j'ai appris que l'article 34 de la Constitution réservait un certain nombre de matières à la compétence du législateur. J'ai compris qu'il y avait un vieil arrêt d'Audignac, Conseil d'État de 1951, réaffirmé de manière régulière depuis, qui disait que le pouvoir réglementaire n'est pas compétent pour instaurer tout seul comme un grand dans son coin un mécanisme d'autorisation d'une activité, notamment d'une activité économique. J'ai appris aussi qu'il existait un arrêt du Conseil d'État, 7 février 36, jurisprudence Jamard, sur la compétence réglementaire du ministre. Et là, nous avons un magnifique mécanisme d'autorisation qui est décidé par un ministre tout seul comme un grand, toute seule comme une grande. Ne soyons pas genrés. Je m'interroge très fortement sur la légalité de ces autorisations. Mais quand je dis je m'interroge sur la légalité, je m'interroge sur la légalité du mécanisme réglementaire qui les institue, mais aussi du coup sur la légalité des autorisations qui ont été délivrées. Je dis ça, je dis rien. Alors, figurez-vous qu'on a fait plus fort, dans le décret du 10 mars 2022, on a créé un mécanisme d'autorisation qui est non plus celui de l'arrêté, reprend le mécanisme d'autorisation de l'arrêté, il est repris par le décret. Logiquement, si on était dans un monde normal, ce mécanisme d'autorisation, il aurait pris sa place dans l'article R214.1 du Code de l'environnement. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que l'on inscrive une nouvelle rubrique, par exemple au titre des rejets de l'article R214.1, en disant, voilà, vous voulez réutiliser les eaux urbaines traitées, vous devez bénéficier d'un mécanisme d'autorisation préfectorale au titre de la loi sur l'eau. C'était tout à fait envisageable. Là, on a un mécanisme sui generis avec, je profite, c'est une petite nouveauté entre l'arrêté d'hier le décret d'hier et l'arrêté de 2010, c'est le fait que aujourd'hui, on a un avis conforme, il y avait une autorisation préfectorale avec avis CODERST. Maintenant, il y a un arrêté préfectoral avec avis CODERST et avis conforme Agence régionale de santé. Donc, on a durci d'une certaine manière les conditions de réutilisation des eaux usées traitées. Le principe de liberté, la possibilité donc d'utiliser ces eaux telles qu'il est affirmé par l'article R211-23, il est quand même relativement encadré. Je m'interroge aussi sur une autre conséquence du système. J'ai un petit peu de mal logiquement à voir l'agencement. Quand vous sollicitez une autorisation pour une station d'épuration, vous dites à l'autorité administrative, voilà, je vais traiter tels effluents et je vais rejeter dans le milieu naturel telle quantité d'eau, par exemple. Ça fait partie, le fonctionnement de votre STEP, le fonctionnement technique, mécanique, etc., de votre STEP, fait partie des conditions de délivrance de l'autorisation. C'est-à-dire que si vous dites, par exemple, je vais rejeter tant de dizaines ou de centaines de milliers de mètres cubes tous les ans dans le cours d'eau, ça fait partie des conditions de délivrance de votre autorisation. Si du jour au lendemain, vous dites, voilà, cette eau, je ne la rejette plus, mais je la mets dans un tuyau au profit d'un utilisateur final, qui est celui qui va faire de l'épandage à titre agricole, de mon point de vue, ça pose à la fois le problème de l'autorisation de cette nouvelle activité, décret donc du 10 mars 2022, ça pose aussi la question de la modification de l'autorisation environnementale dont bénéficie la STEP. Or, comme on est sur des mécanismes qui ne sont pas les mêmes, d'un côté, il y a le mécanisme de déclaration et d'autorisation au titre de l'article R214.1, donc loi sur l'eau. De l'autre côté, vous avez ce truc-là, je ne sais pas comment on appelle, un régime sui generis. Parce que sachez que quand un juriste est embêté, quand il ne sait pas où mettre un truc, il dit c'est sui generis. Donc, on a un mécanisme d'autorisation sui generis, sauf que le mécanisme d'autorisation sui generis, vous avez le droit d'utiliser les eaux traitées, ça ne vaut pas modification de l'autorisation au titre de la loi sur l'eau. Donc il y a là aussi, enfin, peut-être que c'est moi qui flotte, mais moi je vois un léger flottement dans la réglementation. Bon, cela dit, allons le cœur léger vers le développement de la réutilisation des eaux traitées. Ça peut être, de mon point de vue, une solution locale à des problématiques locales. Est-ce l'avenir du monde? J'en suis moyennement convaincu. Le législateur fait du zèle, puisque vous savez que depuis la loi sur l'économie circulaire, maintenant, dans l'article L211.1, on vous dit que la réutilisation des eaux traitées fait partie des moyens permettant d'assurer une gestion, une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. Amen, puisque j'ai commencé par la Bible. Je vous remercie. Et donc, sauf s'il y a des questions. Alors, j'ai pas pu prendre connaissance des...
Non, il n'y en a pas.
Bon.
C'est possible de réagir, je ne sais pas si on peut...
Mais bien sûr, on peut réagir.
Ou à la fin, je ne sais pas, c'est comme vous voulez.
Non, comme vous le souhaitez, on est presque dans les temps.
D'accord. Bah, merci pour vos éclaircissements. J'avais juste, du coup, commentaires et peut-être précisions. Avec une équipe d'Hydrosciences Montpellier, on a beaucoup travaillé sur ces questions de polluants médicamenteux et de perçabilité, de passage de certains antibiotiques et molécules dans des plantes maraîchères. On a même fait du dopage, c'est-à-dire qu'on a exagéré la concentration, on a fait des concentrations pauvres qu'on peut retrouver dans les eaux usées traitées. Et ce qu'on a retrouvé, quelques molécules, hein, mais surtout les concentrations, on parle de nanogrammes par gramme de salade. C'est-à-dire que pour arriver à un gramme, ce qui peut être le cas de paracétamol, il faudrait avoir une certaine quantité, manger une certaine quantité de salade. Je tempère un peu cette question des traits d'actualité, enfin, je ne sais pas si c'est médiatique ou autre, autour de ces polluants médicamenteux. Mais la question, c'est la réalité après chiffrée du risque. En sachant que par rapport à la réglementation à réutilisation, les questions qui, Et la question qui se pose aussi, c'est la comparaison avec les autres risques. On appelle risk assessment. Du coup, c'est pour ça que je parlais du DALIS ce matin, c'est quel seuil on se donne pour un certain risque. Donc ça, c'est valable pour tout. Hein. Enfin, pour brancher je sais pas, un séchoir versus prendre sa voiture. Et donc, c'est cette évaluation du seuil qui est, dans le cas de la reuse, beaucoup discutée. Et donc, ça nous amène à la comparaison. Par exemple, si on a une culture où on fait non bio avec des pesticides, on parle de je ne sais pas combien de grammes qui pourraient être retrouvés, par exemple, dans le produit final, versus la réutilisation et ces nanogrammes qu'on peut retrouver. Donc, c'est un peu cette comparaison qui est importante. Et c'est vrai que d'un point de vue juridique, enfin, je ne suis pas juriste, hein, ces seuils, comment ils sont définis, et c'est une réelle question, en tout cas pour la réutilisation. Et l'autre point par rapport à la réglementation est que si demain on doit monter un projet de réutilisation, il y a la DTT, hein. Donc c'est elle qui veille avant l'arrêté préfectoral à étudier tous les, on va dire, entre les différents services pour l'avoir moi-même déposé ce dossier pour, au niveau de la DDTM de l'Hérault. C'est passé par tous les services et notamment par rapport à la question du débit d'étiage, par la station et l'ARS. C'est elle qui, c'est pas le préfet hein, qui dit oui ou non. Enfin, je ne sais pas si c'était dans ce sens-là, mais il y a bien la DDTM qui est là au milieu. Hein.
Non, mais alors, quelques précisions. La DDTM n'est jamais qu'un service préfectoral sous l'autorité du préfet. Donc, les services sont dits instructeurs, c'est-à-dire qu'ils sont là pour faire les petites mains pour le préfet, mais juridiquement parlant, l'autorisation est délivrée par le préfet et lui seul. En pratique, le préfet signe ce que ses services, la plupart du temps, ce que ses services lui préparent. Mais la responsabilité juridique de la prise de décision est celle du préfet et n'est pas celle de ses services. Deuxième point aujourd'hui. Sur la question des seuils, effectivement, il y a une différence entre dire « nous, scientifiques, nous avons fait des expériences, nous avons constaté que dans certaines situations, on a tel type de polluant qu'on va retrouver à telle concentration ». C'est très bien, on est très content. Mais qui se lève et qui prend la responsabilité de dire « à cette concentration-là, le produit est inoffensif ». Vous voyez, des scientifiques qui disent « nous, on sait mesurer telle concentration de tel produit à tel endroit », il y en a partout en France. Des gens qui sont capables de dire « là, c'est pas dangereux » ou « là, c'est dangereux », là, il n'y a plus personne. L'histoire,
c'est après, l'histoire, c'est la balance. Hein. Comme j'ai dit, c'est des balances qu'on fait. Enfin, c'est les trucs de risque assessment, c'est ça. C'est vraiment
à un moment donné, la règle de droit, elle ne peut pas faire de la balance. La règle de droit dit, voilà, vous devez respecter tel seuil ou pas. Donc, on ne fait pas du pifomètre intégral en fonction des variables saisonnières, du sens du vent, du sens du courant, etc., etc. Donc, la difficulté
ça sont bien. C'est pour ça qu'on parle d'indicateurs aussi. Ça veut dire, oui, il y a les aspects indicateurs. On choisit certains indicateurs par rapport à des choix de microbiologistes qui vont dire, bon, ça peut indiquer jusqu'à un niveau, une certaine... Après, voilà, ça rentre dans le droit environnemental. Je pense que, du coup, si je comprends bien, le fait d'être assis sur une chaise, on a un certain risque de tomber.
Oui, donc, mais sauf que dans...
Marielle, fais attention. Enfin, sauf que aujourd'hui, qui prend la responsabilité si Marielle tombe, quoi. Enfin, je caricature un peu.
Mais... Oui, vous caricaturez un peu, ça m'arrive aussi. Sauf que à un moment donné, quand on soumet à autorisation une activité, ça veut dire qu'on va fixer un cadre. Vous avez le droit de faire dans telle et telle condition. Or, aujourd'hui, moi, ce qui me choque beaucoup, c'est que, je l'évoquais ce matin lors de la discussion, que ce soit en termes d'utilisation, enfin, d'analyse de l'état des sols, de l'état des eaux, etc., on a quelques critères sur lesquels on n'a aucun problème. Alors là, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. On va pouvoir traiter certains types de polluants. Et sur d'autres, personne ne veut s'engager en disant « là, vous avez la possibilité de faire, là, vous n'avez pas la possibilité de faire ». Tout le monde a peur, très simplement. Je comprends, ce n'est pas une critique des scientifiques. Tout le monde a peur de dire « là, ça ne présente pas de risque si par malheur, 10 ans, 20 ans ou 30 ans après, on s'aperçoit qu'il y a effectivement des risques sanitaires, environnementaux qui existent ». Mais aujourd'hui, allez voir les référentiels eau, sol, état des milieux, etc. Sur un certain nombre de valeurs, vous savez que vous n'avez pas le droit de dépasser telle concentration par litre. Et vous avez un tas d'autres critères sur lesquels vous n'avez pas de seuil. Et aujourd'hui, paradoxalement, on l'évoquait ce matin, on a tellement peur, d'une certaine manière, sur la réutilisation des eaux traitées, qu'on va chercher à faire de l'analyse au cas par cas. C'est-à-dire que c'est dans le mécanisme d'autorisation de réutilisation qu'on va fixer des seuils qui n'existent pas pour tout le monde, avec ce paradoxe que si vous allez puiser directement dans le cours d'eau, on ne vous demandera jamais de respecter ces seuils-là. Et voyez comment, derrière... Allez, on va mettre un peu d'ambiance. Derrière, nous, juristes, on est un peu bêtes. On ne fait que mettre en œuvre, on ne fait que mettre en musique les éléments que l'on nous donne. Si vous voulez qu'on fasse des normes qui s'appliquent, du moins qui utilisent des références techniques, donnez-nous les références techniques. Nous, on ne peut pas faire sans vous. Mais il ne faut pas nous dire il y a des indices de la balance, du risque, machin. À un moment donné, il faut les poser sur la table. Et c'est, quand je dis les poser sur la table, ce sont bien entendu ces normes pour arriver à fixer une réglementation qui soit utilisable par l'ensemble des acteurs.
On a deux intervenants.
Parfait.
Donc on a deux intervenants qui ont extérieurs qui ont demandé la parole. Monsieur, je vais prendre dans l'ordre d'apparition Marc Errant et puis ensuite Florence Galetti. On vous écoute.
Oui, merci Marc Errant, Université de Montpellier. Merci de me donner la parole. J'ai bien aimé la présentation, hein, donc je vais continuer avec des paroles bibliques. Moi, j'aime bien ça, Marc. Il faut montrer le chemin. Et sur montrer le chemin, je trouve dommage de barrer la route un petit peu aux usages de la réutilisation sur des principes, moi, qui me font un petit peu mal, parce qu'on va sortir les micropolluants, on va sortir des choses comme ça. Alors, ce qu'on a sur nos fruits et légumes, c'est surtout des pesticides, c'est surtout des choses qui viennent de mauvais traitements et de mauvais pulvérisations à la récolte. Hein, donc, je pense qu'on se trompe de cible. On se trompe de cible et aujourd'hui, on met la pression sur un impératif de production alors qu'on devrait être capable de mesurer un impératif de qualité. Et si effectivement on était capable de mesurer la qualité de nos aliments, de ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien on ne viendrait pas entraver la compétitivité de notre agriculture à qui on va imposer des choses qu'on n'impose pas sur tous les produits qu'on importe. Hein, du Maroc, de l'Espagne, ça a été dit, hein, quand on regarde les fraises d'Espagne, elles sont un petit peu blanches, c'est pas de la petite félicitation, c'est des produits phytosanitaires qui sont dessus. Voilà, donc c'était ma petite réflexion. On a perdu nos industries textiles parce qu'on a eu des textes très, très durs sur les rejets. Ça serait dommage de pénaliser nos agriculteurs parce que derrière, on va les priver d'une ressource qui devient de plus en plus utile pour eux.
Oui, une réponse.
Réponse très rapide, oui, mais on est d'accord que la question de l'eau qui est utilisée, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on est plus sévère avec la réutilisation des eaux usées qu'avec les prélèvements dans le milieu naturel. Donc il y a une forme d'incohérence. La deuxième chose, c'est que, vous savez, pour le vivre régulièrement, qu'on a quelques petits soucis, là aussi, pour fixer des modalités de contrôle efficaces sur les produits alimentaires. Il suffit de regarder certaines associations de consommateurs qui font des campagnes de mesures indépendantes, qui inquiètent un peu. Là aussi, on a un problème de normalisation au sens d'inscription dans la norme de valeurs limites résiduelles sur les produits finis.
Florence Galetti, dernière question, parce qu'après on a...
Je mets mon micro, oui. Est-ce que vous m'entendez ?
Oui, très bien.
Oui, voilà. Question pour Jean-Marc Février. Je m'excuse, elle sera peut-être un peu juridique pour les autres intervenants. Tu es passé un peu vite là. Tu évoquais tes doutes sur la qualité, on va dire, de la rédaction du décret du 10 mars, là, 2022, et tu rappelais que le ministre n'a qu'une toute petite portion de pouvoir réglementaire. Il est tout à fait parcellaire, et en tout cas, c'est une portion tout à fait spéciale du pouvoir réglementaire, comme d'ailleurs le préfet. C'est un pouvoir parcellaire et territorial, on va dire spécial territorial. Tu semblais t'inquiéter de ça, mais tu n'as pas été, à mon avis, assez loin dans ta pensée pour l'auditoire. Et donc, tu semblais voir venir des situations où le principe de l'égalité administrative ne serait pas respecté, ou en tout cas serait contesté peut-être devant un juge. Et le souci des autorisations qui seraient données donc à ceux qui les auraient obtenues. Alors, pour bénéficier de ces eaux traitées, etc. Alors, qui vois-tu qui pourrait se plaindre de ces autorisations qui auraient été données comme ça légèrement sur le fondement de l'illégalité de ces actes? Concrètement, quelles personnes, quels opérateurs, enfin voilà, si tu peux développer un peu.
De manière très simple, je suis... imaginez que je sois voisin d'un golf qui utilise des eaux traitées, je peux avoir peur, je peux m'interroger. Je peux dire, voilà, cette autorisation, elle a été délivrée sur le fondement de l'arrêté du 2 août 2010. Est-ce que l'arrêté du 2 août 2010 peut instituer un régime d'autorisation? Est-ce que cette autorisation est valable? Je m'interroge.
Enfin, l'arrêté, le décret.
Non, là, je parle de,
ah oui, avant.
De celles qui ont été délivrées avant hier.
La question portait sur
maintenant. Et demain, la question se posera, de mon point de vue, avec un argument qui sera différent, c'est-à-dire qu'on était sur un arrêté ministériel, là, on est sur un décret.
Donc, là, on est sur un décret, oui. Et tu formulerais la même inquiétude ?
Oui, parce que, au nom de quoi, le pouvoir réglementaire, même le pouvoir réglementaire du Premier ministre ou du Président de la République, pourrait créer un régime d'autorisation sans base légale, puisque là, le décret d'hier, il se situe volontairement en dehors de la nomenclature, enfin de la base légale qui est celle de l'article 214.3 du Code de l'environnement. Moi, si on avait voulu inscrire cette autorisation dans la nomenclature loi sur l'eau, il suffisait de modifier l'article 214.1.
Oui,
ça n'a pas été fait, donc on reste sur un sui generis.
Une dernière question. Et une dernière question, dernière des dernières.
Très rapidement, par rapport au règlement européen, alors vous avez un peu répondu à la question, sur l'application, quel est votre point de vue? Bon, moi, je suis peut-être d'un point de vue juridique sur les installations qui sont existantes. On a parlé de Roquefort ce matin, il y a l'Allemagne, etc. Est-ce que, d'un point de vue juridique, est-ce que vous pensez qu'il y aurait quelque chose?
L'une des questions que je me posais, je n'étais pas allé aussi loin dans la réflexion, mais globalement, on a des conditions de délivrance des autorisations françaises depuis 2010 qui anticipent très largement le régime d'autorisation du règlement. Quelles vont être les conditions de transition, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire des autorisations qui ont déjà été délivrées? Est-ce qu'elles vont être reconduites au bénéfice, en gros, des droits acquis? À mon avis, ça risque de ressembler de très près à ça. Après, Mais comme on a une architecture, en gros, de l'arrêté de 2010 qui est assez proche de celle du règlement de 2020, il y a un plan. C'est pas le plan de gestion des risques au même titre, mais on a une forme de parenté sur un certain nombre de points. Il est possible qu'on demande, comme on l'avait d'ailleurs demandé quand on a créé la, 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 quand on a mis en place la loi sur l'eau en 92, dire voilà, ceux qui ont été autorisés à un titre antérieur, vous pouvez continuer à exister, vous venez juste nous voir et s'il y a besoin d'un complément, vous nous fournirez le complément et on dira que tout va bien. Ça risque de se passer comme ça, mais on verra en 2023.
Vous mangez des pommes de terre de Normandie ?
Pour le moment, oui. Enfin, vous faites vos choix. Donc, puisque on a fini la partie débat, mais du coup,